Le programme qui va suivre vous est présenté par le ministère enseigne-moi.com. Soyez transformés par l'enseignement de la parole de Jésus-Christ.
C'est pourquoi en son nom, je pose les mains sur les malades et ils sont guéris.
Jésus macht frei.
Jésus libère.
Jésus rettet.
Jésus. Nous avons la parole de Dieu qui renverse des chaînes, des forteresses.
Tu passes du nom de chrétien au nom d'enfant de Dieu.
Je n'ai ni force, ni raison, ni sagesse pour me relever. Enseigne-moi. Mon être est brisé.
Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, nous allons faire rapidement un petit enseignement. Parce que je ne vais pas être long aujourd'hui, puisque nous allons suivre tout un programme durant toute cette formation de leader. Et nous aurons à énoncer beaucoup de principes, beaucoup de notions. J'aimerais partager avec vous ce soir un principe très important, qui, sans lequel aucun enfant de Dieu ne pourrait devenir un véritable responsable d'église. Il y a des étapes dans la vie chrétienne. Lorsque on était dans le monde, Dieu nous a appelés. Et la Bible déclare que pendant même que nous étions encore dans le ventre de notre mère, Dieu nous connaissait déjà. Et Dieu avait déjà établi un plan pour notre vie, sans que nous le sachions. Donc, notre conversion n'a pas été le fruit d'un hasard. Notre conversion rentre dans le plan que Dieu s'est établi pour notre vie depuis avant la fondation du monde. Nous sommes devenus chrétiens, nous avons été baptisés, nous avons été sauvés, nous avons été pardonnés, gloire à Dieu. Pour certains, nous avons été baptisés dans le Saint-Esprit, c'est une bonne chose. Mais la Bible nous enseigne qu'en fait, le but de la vie chrétienne, ce n'est pas d'être sauvé, ce n'est pas d'être pardonné de nos péchés, ce n'est pas d'être baptisé dans le Saint-Esprit, ce n'est pas d'avoir les dons spirituels. Ça, c'est nécessaire, c'est important. Mais le but de la vie chrétienne, c'est de servir le Seigneur. Et c'est pour cela que nous avons été sauvés. Nous avons été sauvés pour servir. Alléluia. Donc un chrétien, quelqu'un qui se dit enfant de Dieu, qui est né de nouveau, qui est passé par la repentance, par les eaux de baptême, et qui est né de nouveau, qui vit sa vie chrétienne, qui vient chaque jour à l'église, qui assiste aux réunions, qui vient chaque jour dimanche à l'église, et qui ne sait pas ce que Dieu attend de lui, est quelqu'un qui vit une vie chrétienne déséquilibrée et qui ne sait pas où il va, parce que Dieu nous a sauvés, Dieu nous a créés et il nous a sauvés, non pour venir tous les jours à l'église, non pour venir tous les dimanches à l'église, non pour chercher toujours à être pardonné de péchés, non pour chercher toujours à être exaucé dans nos prières, non pour être des chrétiens toujours qui manifestent l'onction et la puissance et qui tout va bien, etc., qui chantent des cantiques tous les jours, qui prient pour les malades sont guéris, chassent les démons. Non, c'est pas ça le but de la vie chrétienne. Ça, c'est la vie normale du chrétien. Le but de la vie chrétienne est de servir le Seigneur dans le plan qu'il a établi pour chacun d'entre nous, parce que chacun d'entre nous, lorsque nous avons été créés, nous avons reçu de la part du Seigneur un appel, une vocation. Et chacun d'entre nous, tant que nous sommes, qui que nous soyons, même avant que nous soyons chrétiens, nous avons en nous et dans, au-delà de nous, une vocation, une destinée. Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Dieu a un but pour chacun d'entre nous. Et Dieu veut se servir de chaque homme, de chaque femme, pour amener sur la terre son règne, sa puissance, afin que la sainteté de son nom soit reconnue sur la terre. Dieu nous a créés pour un but. Il a dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il domine. Et la domination veut dire, en fait, la manifestation du règne, de l'autorité et de la présence de Dieu sur la terre. Alléluia. Donc, Dieu veut passer par nous, qui sommes des hommes, pour manifester sa puissance, son autorité et son règne sur la terre. Voilà le but que Dieu s'est fixé pour chacun d'entre nous. Maintenant, lorsque Dieu nous a créés, il a fait en sorte que chacun d'entre nous, dans le cadre de ce but bien précis, ait un appel, ait une vocation, ait un ministère à accomplir, ait quelque chose à faire. Alléluia. Et c'est pourquoi la Bible déclare que « Car je connais les projets que j'ai formés sur toi, projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. » Chacun d'entre nous ici présents, Dieu nous a créés et Dieu nous a donné à chacun d'entre nous une destinée. Alléluia! Nous avons chacun une destinée. Et le but de Dieu est que nous puissions découvrir notre destinée sur la terre. Alléluia! Le but de Dieu, c'est ça. C'est que chacun de nous puisse sur la terre accomplir sa destinée. Et tout au long de la parole de Dieu, nous voyons, depuis que Dieu a créé le monde, que Dieu a suscité à chaque génération des hommes et des femmes, des leaders, à qui il a communiqué une vision, lesquels portaient une vision, et derrière lesquels il y avait des gens, des hommes et des femmes, qui servaient à leur côté, qui croyaient à cette vision, qui comprenait la vision, qui suivait ces hommes et qui croyait qu'au travers de la vision que cet homme porte, leur destinée y est attachée. Donc ils comprenaient que Moïse avait une vision, Moïse avait une destinée, et que leur destinée à eux était attachée à la destinée de cette vision, et que en accomplissant, en servant sous les ordres de Moïse ou sous les ordres d'autres héros de la foi qui ont été suscités des leaders, en accomplissant des tâches, en accomplissant un service bien précis, en fait, ils ne servaient pas cet homme, ils servaient Dieu dans le cadre de cette vision. Donc, ils accomplissaient la destinée de Dieu. Et donc, leur destinée était liée à la destinée du peuple de Dieu et donc était liée à la vision que Dieu a communiquée à son serviteur, qui était par exemple Moïse, qui était par exemple David et bien d'autres. Alléluia. Donc, partant de cette analyse, nous comprenons qu'en fait, quand nous avons été sauvés, on a été sauvés pour servir le Seigneur, mais Dieu nous a donné une destinée, mais que notre destinée est attachée à la destinée du peuple de Dieu. Alléluia. Et cette destinée du peuple de Dieu suit une vision que Dieu a communiquée à une personne. Laquelle personne est appelée leader, pasteur, évangéliste, prophète, apôtre, peu importe le nom qu'il porte, mais à partir du moment où Dieu l'a appelé et lui a communiqué une vision, cette vision venant de Dieu, alors cette vision conduit le peuple de Dieu dans sa destinée. Et tout ce qui travaille dans le cadre de l'accomplissement de cette vision accomplissent également, selon la vocation qu'ils ont reçue de la part du Seigneur, leur destinée. Alléluia. Et quand on a compris ce principe, on comprend finalement qu'est-ce que Dieu veut de nous et qu'est-ce que Dieu veut faire avec nous. Et nous allons lire tout à l'heure une histoire qui va fortement nous enseigner. Alléluia. Qui va fortement nous enseigner, parce que cette histoire nous apprendra ce que j'appellerai les principes de l'élévation dans le ministère. Les lois spirituelles qui nous permettent d'accéder à la royauté. La royauté étant en fait cette position dans laquelle Dieu veut nous placer pour nous permettre de dominer sur la terre, donc d'amener sur la terre le règne de Dieu. Alléluia! De dominer sur les démons, sur les puissances des ténèbres, de dominer sur les circonstances, de dominer sur tout ce qui environne notre existence et de faire respecter la présence de Dieu, l'autorité de sa parole et le nom de Jésus. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 1 Roi. 1 Roi chapitre 1. Nous allons lire tout le chapitre. 1 Roi chapitre 1. Or, le roi David était vieux et avancé en âge. Et quoi qu'on le couvrit de vêtements, il ne pouvait se réchauffer. Alors ses serviteurs lui dirent qu'on recherche au roi, mon seigneur, une jeune fille vierge qui se tienne devant le roi et qui en ait soin et qu'elle dorme en ton sein, afin que le roi, mon seigneur, se réchauffe. On rechercha donc dans tout le territoire d'Israël une belle jeune fille, et on trouva Abishag, la Sunamite, qu'on amena au roi. Or, cette jeune fille était fort belle, et elle avait soin du roi et le servait. Mais le roi ne la connut point. Or, Adonija, fils de Akuif, se leva, disant, « Je régnerai !» Et il se procura des chars et des cavaliers, et 50 hommes qui couraient devant lui. Mais son père ne voulait point lui donner de chagrin, pendant sa vie, ni lui dire pourquoi agis-tu ainsi. Lui aussi était fort beau, et sa mère l'avait enfanté après Absalom. Il s'entendit avec Joab, fils de Tseruja, et avec le sacrificateur Abiathar, et ils embrassèrent le parti d'Adonija. Mais le sacrificateur Tsadok et Benaja, fils de Jenoda, et Nathan le prophète, et Simei, et Rei, et les vaillants hommes de David n'étaient point du parti d'Adonija. Et Adonija immola des brebis, des bœufs et des veaux gras auprès de la pierre des Zoélètes, à côté de la fontaine de Rogel. Et il convia tous ses frères, les fils du roi, et tous les hommes de Juda qui étaient au service du roi. Mais il ne convia point Nathan le prophète, ni Benaja, ni les vaillants hommes, ni Salomon son frère. Alors Nathan parla à Bathsheba, mère de Salomon, et lui dit, « N'as-tu pas appris qu'Adonija, fils d'Agis, a été fait roi, sans que David, notre Seigneur, le sache? Et maintenant viens, je te prie, et je te donnerai un conseil afin que tu sauves ta vie et la vie de ton fils Salomon. Va te présenter au roi David et dis-lui, « Ô roi, mon Seigneur, n'as-tu pas fait ce serment à ta servante en disant, « Ton fils Salomon régnera après moi, et c'est lui qui sera assis sur mon trône. Pourquoi donc est-ce Adonija qui règne? Et voici, pendant que tu parleras encore là avec le roi, j'entrerai moi-même après toi et j'achèverai ton discours. » Cette histoire est l'une des histoires les plus poignantes de l'histoire de la parole de Dieu, du peuple de Dieu. On a ici en fait un problème d'élévation à la royauté. David est vieux et il va bientôt mourir. Et selon les promesses et l'alliance que Dieu a eue avec David, c'est son fils Salomon qui devait succéder à la royauté. Et dans ce passage, la Bible nous révèle que David avait un autre fils qui s'appelait Adonija. Or, la Bible déclare qu'Adonija était beau. C'était quelqu'un qui était beau de figure. Et la racine hébraïque du mot beau de figure signifie qu'il avait une destinée. C'est la même chose, par exemple, lorsque Moïse est né et que le roi d'Égypte, Pharaon, va ordonner que l'on tue tous les premiers-nés hébreux. La Bible déclare que les parents de Moïse, voyant que l'enfant était beau, prirent l'enfant, le mirent dans une corbeille et l'amenèrent sur un fleuve. La racine hébraïque du mot, lorsque la Bible déclare que les parents de Moïse virent que l'enfant était beau, c'est traduit par les parents de Moïse virent que l'enfant avait une destinée. Donc nous voyons ici effectivement que Adonija était beau de figure, il était donc quelqu'un qui avait une destinée. C'est quelqu'un qui avait une vocation. C'est quelqu'un qui avait un appel. C'est quelqu'un qui avait un ministère. Mais le problème avec Adonija, c'est quoi? C'est que, ayant pris conscience de sa vocation, ayant pris conscience de son appel, ayant pris conscience de sa destinée, qu'est-ce qu'il fait? Lorsqu'il apprend que son père est mourant et qu'il va donc bientôt laisser la place de la royauté à quelqu'un d'autre, la Bible nous révèle que Adonija va organiser lui-même son accession à la royauté. Il va prendre 50 hommes avec lui. Et ce qui est encore plus grave, c'est que Adonija ira jusqu'à prendre des gens qui étaient dans la cour royale, qui étaient dans l'élite royale. Quelqu'un comme Joab, qui était le chef de l'armée de David, qui avait mené de grandes guerres pour David. Joab était quelqu'un qui craignait Dieu, quelqu'un qui savait écouter la voix de Dieu, qui savait discerner même. L'Abbé déclare que l'homme spirituel, juste de tout nom, qui peut discerner. Joab savait discerner ce qui venait de Dieu, ce qui ne venait pas de Dieu. La preuve, c'est qu'en fait, face au roi, lorsque Satan vient pour pousser le roi à faire ce qui n'est pas bien, il discerne que ça ne venait pas de Dieu. Mais vous voyez ce qu'Adonija fait? Non seulement il regroupe 50 personnes qui étaient derrière lui, mais en plus de cela, ce qu'il fait, c'est quoi? Il va jusqu'à chercher des gens qui étaient pratiquement les bras droits de David. Quelqu'un qui était le chef de l'armée de David, Joab. Pas n'importe qui avait du poids. Et il le rallie à son parti. Et il ne s'arrête pas là. Il va s'appeler le sacrificateur Abiathar. Or, nous savons le rôle du sacrificateur au sein de la cour royale. Et nous savons comment ça se passe lorsque comment Dieu utilisait les sacrificateurs pour servir à la cour royale. Et même pour l'accession à la cérémonie, par exemple, de l'ordination d'un roi, comme on le voit, par exemple, dans la succession de David. C'était un sacrificateur que Dieu a demandé à David de oindre Salomon d'huile. Il utilise un sacrificateur. Il n'y avait pas que des sacrificateurs, il y avait également des prophètes. Par exemple, le prophète Nathan, qui servait à la cour du roi. Mais qu'est-ce qu'Adonijah fait? Adonijah va jusqu'à corrompre Joab, corrompre Abiathar le sacrificateur, et corrompre bien de personnes qui étaient autour de David. Heureusement, il n'a pas pu corrompre des gens comme Nathan le prophète, des gens comme les vaillants héros, ou encore sa femme Bathsheba, et bien d'autres. Mais nous voyons qu'en fait, quand nous lisons le roi chapitre 2, que Adonijah avait conscience qu'il avait une destinée. La preuve, c'est qu'en fait, lorsque il vient voir Bathsheba dans un roi 2, il dit à Bathsheba que tu sais très bien qu'en fait, c'est moi qui devais être roi. Parce que tout le peuple m'aime et tout le peuple m'apprécie. Donc nous voyons que Adonijah était quelqu'un qui avait une crédibilité au milieu du peuple, qui avait du poids, qui avait vraiment un esprit de leadership. C'était quelqu'un qui savait mener des troupes. C'était quelqu'un qui avait en fait une vocation. Il avait une destinée royale. Et ce ne serait pas étonnant que dans son avenir, même après Salomon, s'il avait bien fait les choses, il avait bien marché, il ne serait peut-être pas étonnant qu'il ait même pu peut-être succéder à Salomon après. Puisque réellement, il avait une destinée. Il avait une vocation, il avait une destinée royale. Il avait toutes les qualités. Il avait les compétences. Il savait motiver les troupes, il savait railler les gens, il savait parler au peuple, il était apprécié du peuple, il avait l'éloquence, il avait l'onction, il avait la parole facile, il avait les compétences, il avait l'intelligence, et il était beau de figure de la Bible. Donc ça veut dire qu'il avait une destinée. Et il était conscient qu'il avait une destinée royale. Mais le problème avec Adonijah, c'est quoi? Et c'est là justement le cœur de notre enseignement ce soir. Le problème avec Adonijah, c'est que il n'a pas compris que les compétences ne suffisent pas. L'onction ne suffit pas. Avoir une vocation, avoir une destinée ne suffit pas. Savoir parler au peuple ne suffit pas. Avoir de la crédibilité auprès du peuple, avoir de la notoriété, avoir de l'audience auprès du peuple et être apprécié par le peuple ne suffisait pas pour accéder à la royauté. Parce que comme nous le voyons, pour accéder à la royauté, l'accession à la royauté suit et respecte un certain nombre de règles et de principes sans lesquels nulle personne, qui qu'elle soit, ne pouvait accéder à la royauté. Et ça, Adonijah n'avait jamais compris ça. Voilà pourquoi, finalement, Adonijah va se retrouver dans une situation difficile. Parce que lorsque Salomon va accéder à la royauté, il va prendre peur, il va l'attraper les cornes de l'autel. Heureusement, pour lui, il va trouver grâce aux yeux de son frère. Mais cela va durer un temps, puisqu'après, il va finalement le tuer. Vous connaissez l'histoire. Le problème d'Adonijah, c'est qu'en fait, il n'avait pas compris que accéder à la royauté pourrait être élevé dans la maison du Seigneur. Il faut suivre des principes spirituels, des lois spirituelles que Dieu lui-même a établies. Alléluia! Et la première loi spirituelle qu'il faut faire, premièrement, c'est d'abord de servir dans la cour du roi. De servir, la loi du service. Et lorsque nous voyons dans le livre de 1 Chronique chapitre 22, je ne vais pas lire ça, vous allez lire ça à la maison. Nous voyons effectivement que le fait que Salomon ait été choisi pour accéder au trône royal n'était pas simplement le fruit d'une simple vocation. C'est vrai qu'il avait la vocation. C'est vrai que Dieu avait fait alliance avec David, que c'est lui qui devait accéder à la royauté. Et que David avait promis à Bathsheba, qui est sa femme, la mère de Salomon, qu'effectivement ton fils accédera à la royauté. C'est vrai toutes ces choses. Mais ça ne suffisait pas, parce que Salomon était quelqu'un qui servait à la cour du roi et qui servait le roi avec obéissance et soumission. Alléluia! Et quand vous lisez le livre de 1 Chroniques chapitre 22, vous voyez comment le roi David explique à son fils Salomon comment les choses doivent fonctionner au niveau du temple, la maison de Dieu, le tabernacle, etc., les instructions. Il avait connaissance de toute la cour royale et du fonctionnement de toute la structure royale. Pourquoi? Parce qu'il était au service de son père, le roi, et donc il avait instruction auprès du roi sur comment les choses fonctionnaient dans la structure royale. Alléluia! Et c'est ça que Adonijah n'avait pas. C'est ça qui lui manquait. Et pourquoi ça lui manquait? Parce que simplement, Adonijah ne s'était pas soumis. Il n'avait jamais appris à servir. Et donc, il ne connaissait pas comment fonctionnaient les choses. Ils ne connaissaient même pas quels étaient les principes qu'il fallait respecter pour organiser une cérémonie d'accession à la royauté. La preuve, qu'est-ce qu'il fait? Il prend 50 hommes, il prend un sacrificateur, il ne prend même pas de prophète, il n'y a pas de prophète. Or, le prophète, c'est la voix de l'Éternel. Et on ne pouvait pas oindre un roi sans un prophète. La preuve, quand David ordonne à ce que Salomon soit ou un roi, qu'est-ce qui se passe? Il demande à Nathan le prophète d'y aller. Il demande au sacrificateur d'y aller. Il y a toute une organisation. Et quand vous lisez tous les versets qu'on a sautés là, vous voyez bien qu'il y avait toute une cérémonie. Tout était bien organisé. Il y avait des principes à respecter. Ce n'était pas le fruit des hasards. Il y avait des gens qu'il ne fallait pas éviter. Il y avait des gens qu'il fallait obligatoirement mettre dans le processus de l'accession à la royauté. Or, la Bible prend soin de souligner que Adonijah n'a pas convié ces personnes à son parti. Il les a écartés. Donc, ils ne connaissaient pas. La preuve, c'est qu'ils ne connaissaient même pas les principes de l'accession à la royauté. Il s'est contenté de son onction, de ses compétences, de sa connaissance, de sa capacité à pouvoir motiver les troupes et de la crédibilité qu'elle avait auprès du peuple, et il pensait que ça suffisait. Et ce que moi j'aimerais vraiment essayer de nous faire comprendre ce soir, bien-aimé, c'est que nous allons, tout au long de cette école de leader, apprendre beaucoup de principes qui caractérisent un véritable leader et qui permettent à ce que nous soyons réellement des leaders approuvés par Dieu, qui pourront être utilisés par Dieu et qui pourront réellement amener cette œuvre dans sa destinée. Mais le premier principe que j'aimerais partager avec vous ce soir, c'est le principe du service, de la soumission, du service. Et nous voyons bien que tous les grands hommes de Dieu qui ont été élevés dans l'histoire du peuple de Dieu, tous les grands héros de la foi, nul d'entre eux n'a échappé à ce principe. Quand nous voyons un gars comme Moïse, Dieu l'appelle. Moïse, avant qu'il n'aille délivrer le peuple d'Israël, pourtant il avait déjà la vocation. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu l'amène quelque part pour le former. Ce même Moïse, il a travaillé chez son beau-père Jéthro. Il a travaillé chez son beau-père Jéthro. Pourtant, il savait très bien qui il était. Il savait qu'il avait une vocation de la part du Seigneur. Mais pendant plusieurs années, Moïse a travaillé sous les ordres d'un homme. Il a appris à se soumettre. Il a appris à obéir. Il a appris à être dirigé. Il a appris à être commandé. Il a appris à être même parfois humilié. Quand nous voyons quelqu'un comme Samuel, elle déclare que pendant qu'il était dans le temple, il entend la voix de l'Éternel lui parler. Pendant qu'il servait Dieu dans le temple. Quand nous voyons quelqu'un comme Élisée, peut-être c'était un prophète, il avait été ou un prophète. Mais la Bible déclare que lorsque Élie arrive, il trouve Élisée en train de faire quoi? Il trouve Élisée en train de paître les bœufs, le troupeau. Et c'est là qu'il jette son manteau sur Élisée. Élisée avait déjà donc reçu l'onction, il avait reçu l'appel. Mais qu'est-ce qu'il fait? Pendant tout ce temps, il était au service d'Élie. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il avait les mains d'Élie. Est-ce que vous comprenez vraiment ce que je suis en train d'essayer de vous faire comprendre ce soir? Vous voyez quelqu'un comme Joseph. Joseph, c'est quelqu'un, dès son jeune âge, Dieu lui a révélé sa destinée. Il disait même à ses frères que vous me voyez là, hein, j'ai vu déjà que vous tous là, vous allez vous courber devant moi, vous allez vous prosterner devant moi. Je serai un grand quelqu'un. Je ne suis pas n'importe qui. Et vous savez, c'est ce qui lui a valu. Ses frères l'ont vendu, il est allé en Égypte. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a été au service du roi. Et en plus, ce n'était pas un homme de Dieu, un païen, un magicien même. Puisque vous savez très bien l'histoire de l'Égypte, avec toute sa magie et tous ses savants. Lorsque nous voyons Jésus-Christ même lui-même, Jésus, le Fils de Dieu, lorsqu'il arrive sur la terre, la Bible déclare que Jean-Baptiste a dit qu'il est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Il est plus puissant que moi. Jean-Baptiste dit qu'il est plus puissant que lui. Mais quand Jésus arrive, la Bible déclare qu'il vient au Jourdain pour se faire baptiser par Jean-Baptiste. Au point que même Jean-Baptiste lui-même était embêté. Il dit, je ne peux pas, tu es plus puissant que moi. C'est moi qui dois être baptisé par toi et non toi. Il dit, laissons accomplir ce qui est juste. Donc, Jésus-Christ lui-même se soumet à une autorité. Et il se laisse baptiser par cette autorité. Et nous connaissons l'histoire. Lorsque Jésus-Christ s'est soumis de la sorte, la Bible déclare que le ciel s'est ouvert sur lui. Quand le ciel s'ouvre sur nous, c'est quoi? C'est que Dieu repense sur nous, réellement, son onction et sa puissance. L'Esprit de Dieu est descendu sur lui en forme de colombe pour marquer le saut de l'onction de Dieu sur sa vie. Et une voix s'est fait entendre sur ces paroles, celui-ci est mon fils bien-aimé, pour marquer le signe de son approbation sur sa vie. Quelqu'un comme Paul, qui a écrit la moitié du Nouveau Testament, où nous voyons que Paul, malgré le fait qu'il a persécuté l'église de Christ, qu'est-ce qui s'est passé? Après que Ananias l'ait imposé les mains et qu'il a recouvert la vue, qu'il a reçu la révélation du Seigneur, il était au service de qui? Il était au service de Barnabas. C'est Barnabas qui l'a coaché. C'est Barnabas. Et quand vous lisez l'histoire, c'est même Barnabas qui le prend, qui l'amène à Jérusalem pour l'amener à rencontrer les apôtres qui étaient là, pour le faire connaître, parce que les gens étaient un peu méfiants, sachant que c'est lui qui tuait les chrétiens. Bien-aimés, on peut avoir la révélation, on peut avoir l'onction, on peut avoir les compétences, on peut avoir les qualités intellectuelles et culturelles possibles, on peut tout avoir. Mais si nous ne sommes pas au service d'un homme, si nous n'apprenons pas à nous soumettre à une autorité que Dieu a établie, nous ne serons jamais élevés et nous ne pourrons jamais accéder à la royauté. Parce que quiconque se lève sera abaissé. Et c'est l'histoire d'Adonija. Il a été abaissé, mais vous connaissez, vous pouvez à lire toute l'histoire. Un roi, un, deux, et tout le reste. Vous allez voir comment il a été humilié. Joab, qui était le chef de l'armée de David, vous allez voir comment il a fini. Tout simplement, pourquoi? C'est pas que ces hommes-là manquaient de qualité, de compétences, de vocation, ils avaient une destinée. On l'a bien vu. Mais ce qui leur manquait, c'est quoi? C'est la soumission. Le principe du service, apprendre à servir sous l'autorité d'un homme de Dieu que Dieu a établi et à qui il a conféré une vision et à laquelle vision s'attache la destinée de son peuple. Et quand nous avons compris ces choses, nous comprenons que le fait de servir sous l'autorité d'un homme, c'est pas que nous servons cet homme en particulier. En fait, nous servions à l'accomplissement de la vision que Dieu l'a donnée. Et comme cette vision-là, c'est la vision qui amènera son peuple dans sa destinée, alors en servant ainsi, nous accomplissons même nous-mêmes par rapport à notre vocation, notre destinée. Alléluia! Et quand on a compris ce principe, bien aimé, le sentiment d'humilité gagne nos cœurs. Et la Bible déclare que quiconque s'abaisse sera élevé. Prenons l'exemple de Jésus-Christ lui-même. Jésus, fils de Dieu. La Bible déclare qu'il s'est humilié. Il s'est humilié. La Bible déclare que comme une brebis devant ce qu'il attend, il n'a même pas ouvert la bouche, on l'a mené comme à l'abattoir. Et la Bible déclare qu'il s'est humilié. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort même de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Alléluia! Afin qu'au nom de Jésus-Christ, tous genoux fléchissent et tout le temps confesse que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ n'a pas été élevé avant la croix. Jésus-Christ a été élevé après la croix. La Bible déclare qu'il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, à la mort même de la croix. Donc, il n'a pas été élevé avant la croix. Il a été élevé après la croix. Et la Bible déclare que celui qui veut me suivre, qui veut me ressembler à Jésus, qu'il prenne sa croix, qu'il la porte chaque jour. Or, la croix, c'est quoi? La croix, c'est le symbole de la soumission, le fait de s'incliner, d'accepter, de souffrir, d'être même parfois piétiné, humilié, foulé aux pieds par les hommes. Ta capacité à pouvoir être obéissant et soumis, quand bien même parfois tu as raison et que les gens trouvent que tu as tort. Parfois tu reçois des révélations et tu penses que le pasteur doit faire comme ça, mais le pasteur ne fait pas comme ça, tu dis Dieu m'a parlé. Ta capacité à pouvoir toujours être obéissant au pasteur, quand bien même tu penses que le pasteur est à côté. Regardez quelqu'un comme par exemple Joab, qui reconnaît que David se trompe parce que le recensement, c'est pas quelque chose qui vient de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il le dit quand même à David, mais voyant que David, le roi, reste sur sa position, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire le recensement. Il fait le dénombrement. Est-ce que vous comprenez un peu le degré de soumission que Dieu est en train de nous révéler ici? C'est pas une soumission que oui, je reconnais que le pasteur, c'est le pasteur. Encore que ici en France, je vais quand même vous le dire, nous avons un réel problème avec l'autorité. Or, nous ne pouvons pas accéder à une place d'autorité si nous-mêmes n'avons pas appris à nous soumettre à une autorité. Souvenez-vous par exemple de l'histoire de centenier qui veut voir Jésus-Christ pour qu'il puisse guérir sa fille. Qu'est-ce qu'il dit à Jésus? Il dit non, ne te déplace pas. Moi, je suis un commandant dans l'armée. Je suis moi-même soumis à des chefs. Suivez-moi bien. Il dit, je suis soumis à des chefs. Mais quand je dis à mes hommes, faites ceci, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'exécutent. Il dit, je suis soumis à des chefs. Et parce qu'il est soumis à des chefs, lui en retour aussi, quand il dit à ses serviteurs, faites ceci, ses serviteurs obéissent promptement. Alléluia! Parce qu'au départ, lui-même, il est soumis. Il prend soin de souligner que moi-même, je sais que je suis soumis à des chefs. Donc, quand je dis à mes serviteurs, faites ceci, eux aussi obéissent. Pourquoi? Parce que les serviteurs voient comment lui-même obéit à ses chefs. Alors, eux aussi, en conséquence, ils obéissent. Alléluia! Nous ne pouvons pas accéder au trône de la royauté si nous n'apprenons pas à être soumis aux hommes de Dieu que Dieu a établis devant nous. Et nous avons besoin de remettre en place le principe de l'autorité au milieu du peuple de Dieu. Et nous, ici, en tant que futurs leaders, je vais terminer par là, bien-aimé. Nous devons, ce soir, pour commencer ces enseignements, savoir que Dieu veut nous élever. Et il est nul sans doute que nous avons une vocation. Nous avons des compétences, nous avons des connaissances. Nous connaissons peut-être même la Bible plus que le pasteur. Nous l'avons peut-être même lu plusieurs fois plus que le pasteur. Ce n'est pas un problème. Nous avons peut-être une très grande autorité, une très grande audience devant le peuple. On s'habille même peut-être avec une plus grande prestance. On est même peut-être plus éloquent. On s'habille peut-être même mieux parler que les pasteurs. Là n'est pas le problème. Adonijah avait tout ça. Mais le problème d'Adonijah, c'est qu'il ne connaissait pas les principes qui permettaient d'accéder à la royauté. Et l'un de ces principes, c'est le service auprès des hommes de Dieu et la soumission aux autorités que Dieu a établies devant nous. Alléluia! Et quand on a compris ça, alors il va nous arriver ce qui est arrivé à Barnabas et Saul. Il déclare que pendant qu'ils servaient le Seigneur dans le temple, le Saint-Esprit dit quoi? Mettez-moi à part Barnabas et Saul. Alléluia! Il dit quand? Quand? Pendant qu'ils étaient en train de servir. Ce n'est pas pendant qu'ils étaient en train de motiver les troupes comme Adonijah, de rassembler 50 hommes. Non. Ils accèdent à la royauté quand est-ce? Quand ils étaient en train de servir dans le temple. Pendant qu'ils étaient en train de servir, alors le Saint-Esprit vit que ces hommes-là ont un esprit de service. Ils sont des gens qui ont la soumission, des gens humbles, parce qu'ils servaient. Ils servaient. Comme le jeune Samuel servait dans le temple. Et là, il entendait la voix de l'Éternel. Nous sommes tous ici présents. Bien-aimés, je vais conclure par là. Dieu veut nous utiliser. Nous avons des vocations, nous avons des appels. Nous avons chacun une destinée, ça c'est sûr. Nous avons des connaissances, des compétences. Nous avons même des, peut-être même des positions sociales très, 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 très bien, bien élevées. Nous avons tout ce qu'il faut pour que, aujourd'hui, on soit peut-être même mieux que l'homme que Dieu a mis devant nous. Mais il en demeure une chose. Et c'est ça la vérité. C'est que c'est Dieu qui l'a établi là où il est. Et tant que Dieu l'a établi là où il est et que Dieu l'a communiqué une vision, nous devons savoir que si nous aussi, nous voulons être élevés et accéder à la royauté, nous devons nous soumettre à l'autorité. Et à partir de là, Dieu nous élevera. Alléluia! C'est ça les deux fondements, les deux premiers principes que je voulais établir pour commencer cette école de leader, pour que nous puissions comprendre. Voilà pourquoi au départ j'ai lu la vision. Je vous ai expliqué l'historique, l'histoire de l'église, de l'œuvre et la vision. Pour que vous puissiez comprendre réellement, mesurer la portée spirituelle de cette œuvre. Elle a une histoire, elle a une vision. Et si nous voulons que Dieu nous utilise, nous devons croire à cette vision, à cette histoire, à son histoire et à la vision que Dieu a donnée à cette œuvre. Et sachant qu'en servant auprès de l'homme de Dieu qui Dieu a établi, nous servons pour accomplir la vision, et cette vision a une destinée. Et la destinée de chacun d'entre nous est attachée à la destinée de cette vision. Donc en servant le Seigneur, nous accomplissons même nous-mêmes notre propre destinée. Alléluia! Et nous vivons longtemps. Et nous verrons des jours glorieux. Alléluia! Vraiment ce soir, que nous puissions asseoir dans nos cœurs ce que nous venons d'apprendre. Parce que réellement, Dieu veut nous former à être des véritables leaders. Merci Seigneur pour cet enseignement, pour cette série d'enseignements qui a commencé ce soir au niveau de la formation de leaders. Ce soir, tu nous as appris une chose, c'est que tu veux nous faire accéder à la royauté. Et ça, c'est certain, parce que chacun d'entre nous ici avons une vocation et une destinée royale. et tu as fait de nous un peuple et de rois sacrificateurs. Tu veux que nous puissions réellement dominer et manifester ta gloire sur la terre. Mais pour accéder à cette royauté, nous devons apprendre à suivre des principes spirituels, des lois que tu as établies, et ne pas déroger à ces lois comme Adonija l'a fait. Et nous connaissons, Seigneur, la fin de cet homme. Et nous voulons, Seigneur, ô Dieu, être des Salomon. Et la preuve, c'est que Salomon a faim, Seigneur, ô Dieu, a été doté d'une grande sagesse et d'une grande intelligence qu'aucun homme de Dieu n'a jamais eu sur toute l'histoire de la parole de Dieu. Aide-nous, Seigneur, à apprendre l'obéissance, la soumission et être au service de tes oins que tu as établis devant nous. Parce que la destinée de la vision que tu leur as accomplie, que tu leur as communiquée, Seigneur, la destinée de cette vision, aussi de cette destinée dépend la destinée de notre vocation, de notre appel. Merci Seigneur. Et bénis ton peuple tout au long de cette série de formations que nous allons avoir dans le cadre des futurs leaders. Ouvre nos cœurs afin que nous soyons réceptifs et notre intelligence afin que nous soyons dociles pour apprendre. Au nom de Jésus.